Vous écoutez, on lit pour vous.
Christianisme sauce Internet. Un texte de Daphné B. paru le 12 janvier 2025 dans la presse. Le christianisme revient-il à la mode? Depuis plusieurs mois déjà, de jeunes Québécois prêchent la bonne nouvelle sur mon fil TikTok, tandis que des influenceurs connus comme la danseuse Sarah-Jeanne Blot ou encore le balado-diffuseur Jérémy Noah Thériault, alias JNT, propagent l'Évangile sur leurs réseaux sociaux. L'espace médiatique est quant à lui pétri de discussions sur les « tradwives », ces nouvelles égéries du web qui mettent en scène un mode de vie traditionnel campé par des valeurs chrétiennes. Le Wall Street Journal rapporte même que les ventes de Bibles auraient augmenté de 22% aux États-Unis par rapport à l'année précédente. Si ma perception du monde est partielle, souvent réduite à la bulle informationnelle dans laquelle les algorithmes me confinent, je ne suis pas la seule à constater ce soi-disant retour du religieux. L'été dernier, Urbania a d'ailleurs réalisé un reportage « Depuis quand c'est cool d'aimer Dieu », tandis que la journaliste Marie-Isabelle Rochon s'est intéressée à l'attrait qu'exercent les églises évangéliques chez les jeunes Québécois pour Radio-Canada. En général, au Québec, la tendance est à la non-religion, me précise pourtant Benjamin Gagné, doctorant en sciences religieuses à l'Université de Strasbourg. Jacob Legault-Leclerc, doctorant en sociologie à l'Université de Waterloo, abonde dans le même sens. En se rapportant à une étude réalisée en 2019 aux États-Unis et au Canada, le Millennial Trend Survey, le chercheur m'apprend que les milléniaux sont moins religieux que toutes les générations précédentes. Alors, comment expliquer l'apparente religiosité que je constate en ligne? Bien sûr, l'Église catholique multiplie les initiatives pour se mettre au goût du jour. En 2025, par exemple, le pape est censé canoniser celui qu'on appelle désormais le saint patron de l'Internet, Carlo Acutis, un petit whiz de l'informatique mort à 15 ans d'une leucémie en 2006. La canonisation de ce premier cyberapôtre porte pourtant les traits d'une gamique publicitaire. J'ai beau être une milléniale, comme le futur saint, son parcours numérique n'a que peu d'impact sur mon rapport désenchanté à Dieu. La transformation du religieux. Depuis la Révolution tranquille, la société québécoise traverse un processus de sécularisation marqué. Une majorité de Québécois demeure de confession catholique, mais la transmission familiale de la religion diminue. On est de moins en moins religieux par héritage ou parce que nos parents l'étaient. C'est davantage un choix assumé et libre, dit Jean-Philippe Perrault, sociologue des religions à l'Université Laval. Beaucoup entretiennent une certaine méfiance à l'égard de l'Église. Cette perte de confiance transcende le religieux. On l'observe dans nos rapports aux médias ou au gouvernement. C'est qu'aux yeux de certains, les grandes institutions ont fini par incarner les abus de toutes sortes, à commencer par les agressions sexuelles sur les mineurs dans l'Église catholique. Nourris par cette méfiance, des discours politiques anti-système favorisant la liberté de choix, l'émancipation et l'individualisme gagnent en popularité. La culture ambiante met beaucoup d'importance sur l'individu et sur le choix personnel. Ces injonctions sociales se retrouvent conséquemment dans les parcours religieux, dit Jean-Philippe Perrault. Ainsi, si on peut parler d'un déclin du religieux, on doit aussi parler de sa transformation. La nouvelle religiosité que je remarque en ligne semble d'ailleurs complètement en phase avec l'éthos du web. Le culte de la vérité. Jean-Philippe Perrault me dit par exemple que l'autorité du pape, particulièrement depuis Jean-Paul II, ne tient plus nécessairement à sa position de pouvoir, mais aux qualités personnelles qu'on lui attribue en vertu de son expérience de vie. Sur l'Internet, on accède d'ailleurs à sa parole librement, sans intermédiaire. Cela permet de tisser avec lui une relation qui ressemble à celle que l'on tisse avec certains influenceurs, ces créateurs du web qui nous servent désormais de modèles aspirationnels. Nageons-nous en plein culte de la personnalité? Je dirais davantage que c'est un culte des parcours, répond Jean-Philippe Perrault, explicitant la valeur que prend désormais l'expérience personnelle dans notre culture. La vérité existe toujours, mais ce n'est plus la vérité révélée parce que Dieu l'aurait dit. Elle l'est parce qu'on l'a vécue. Les influenceurs fitness qui pullulent sur mon feed utilisent d'ailleurs leur corps pour prouver la véracité de la vision du monde qu'ils me vendent. Leurs muscles ciselés deviennent gage de confiance. Ils témoignent d'un parcours réussi et authentique. C'est ce qui me donne foi en eux. Alors qu'on change régulièrement d'esthétique, de régime alimentaire ou même de corps, nos identités religieuses se font aussi fluides. Elles épousent nos désirs transitoires. Un récent article dans The Telegraph fait d'ailleurs état d'un nombre grandissant de jeunes hommes protestants qui rejoignent l'Église orthodoxe. Ils entendent parler de la confession sur YouTube ou dans des émissions balado et sont attirés par sa masculinité. Ce phénomène fait penser au christianisme musculaire, en phase avec une certaine culture bro, très présente sur le web. Il témoigne aussi d'une forme de personnalisation de nos identités religieuses. Certaines confessions chrétiennes permettent d'ailleurs une relation plus personnelle avec Dieu, notamment le protestantisme évangélique. Dans ce mouvement, il n'y a pas de médiation entre Dieu et le croyant, précise Jacob Legault-Leclerc. Benjamin Gagné m'explique quant à lui que les transformations individuelles y occupent une place centrale. J'imagine que tu suis JNT, me demande-t-il en faisant référence au balado-diffuseur québécois qu'on associe maintenant à la Good News Chapel. Des histoires comme la sienne, soit celle de quelqu'un qui vit un passé de consommation, puis se transforme, c'est typique du milieu évangélique. Lorsque ces expériences vécues sont racontées, voire performées, elles réussissent à toucher des gens qui se reconnaissent en elles. D'ailleurs, les évangéliques sont parmi les premiers à tirer profit du web pour se raconter et transmettre l'Évangile. Selon Jacob Legault-Leclerc, ces derniers ont le devoir de propager le message chrétien. Puisque la culture web nous encourage à nous raconter devant les autres, la mise en récit de leur parcours religieux circule particulièrement bien en ligne. Parallèlement à ce florilège de contenus religieux, on note aussi une abondance de discours spirituels qui rappellent la religion. Il y a du religieux à l'extérieur de la religion, insiste Jean-Philippe Perrault. On développe des mécanismes, un langage et des croyances pour domestiquer notre angoisse. Pour Jacob Legault-Leclerc, il s'agit de déterminer si on peut transmettre cette nouvelle spiritualité composite de façon à ce qu'elle soit pérenne. Jean-Philippe Perrault rappelle aussi qu'on trouve de nouvelles formes de religiosité au sein des discours technologiques en vogue. Ils possèdent leur propre eschatologie, c'est-à-dire leur propre vision de la fin du monde. Le transhumanisme, par exemple, vise à transcender l'existence biologique de nos corps. Ainsi, l'idéologie fonctionne un peu comme une religion. Elle nous promet à son tour de nous permettre de contrôler notre mort. C'était Christianisme sauce Internet, un texte de Daphné B., paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.
Cours privé de français. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Un texte de Sébastien Auger de La Presse canadienne, paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir. Lorsque le secteur public est incapable d'offrir une prise en charge satisfaisante, le réflexe collectif est de se tourner vers le privé. C'est exactement ce que font de nombreux immigrants pour apprendre le français depuis que le gouvernement Legault a sabré dans le programme de francisation. La demande est tellement forte qu'un enseignant a décidé de prendre les choses en main et de fonder sa propre école. Je reçois des appels par centaines. Le téléphone n'arrête pas de sonner, lance Arnaud Etu, dont la vaste expérience dans des classes de francisation de Montréal lui a permis d'observer un problème criant. J'ai travaillé pour le gouvernement du Québec en francisation aux adultes et je me suis lancé en affaires dans le contexte des coupures et des difficultés que plusieurs étudiants avaient à trouver une école. Si le gouvernement n'est pas capable de fournir, ça prend des initiatives qui viennent en dehors du gouvernement. Il a ainsi créé l'école Lingua Franca qui ouvrira officiellement ses portes en janvier. Étant donné que des classes ont fermé et que des étudiants ont perdu leur place, on est là pour eux. Ceux qui sont dans le système sont bénis, mais c'est l'enfer pour les autres. C'est pour ces gens qui n'ont pas la chance d'être dans le système que j'ai fondé l'école. Et ça va être de plus en plus difficile parce que les délais ne vont pas baisser, ils vont juste augmenter. Ils jettent le blâme sur le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, MIFI, qu'ils jugent complètement dysfonctionnel. En décalage complet, M. Etu reproche au gouvernement caquiste d'être en décalage complet. La structure est très lourde, il y a d'immenses barrières bureaucratiques. Il a tenté en vain un partenariat public-privé avec le MIFI. Sa requête a été refusée, parce que c'est privé, avance-t-il. Comme ils ne veulent pas nouer de nouveaux partenariats, je trouve que c'est une barrière de plus. Si on changeait les règles, ça irait beaucoup mieux, ce serait plus efficace, croit-il. Revoyez vos règles ministérielles et permettez des partenariats publics-privés pour la francisation. Arrêtons de voir ça comme hermétique parce que là, on perd la partie. On doit être cohérent parce que l'objectif, en fin de compte, est de faire en sorte que ces gens-là puissent être francisés. M. Etu déplore que, dans notre culture politique, nous sommes frileux par rapport à tout ce qui est privé. C'est presque blasphématoire. Mais cette image n'est pas adaptée au contexte d'aujourd'hui, du moins en francisation. Selon lui, ce serait aussi un choix logique de recourir au privé d'un point de vue économique. Le fait que le gouvernement ne soit pas ouvert à aller plus loin, ça fait en sorte qu'on paie plus cher parce qu'il n'y a pas de concurrence parmi les établissements de francisation, souligne M. Etu. Il clame pouvoir donner des cours similaires pour la moitié de la facture actuelle, tout en proposant un service personnalisé. Beaucoup de bureaucratie inutile. Le propriétaire de CLIC Montréal, la plus vieille école de langue au Québec, fait écho aux propos d'Arnaud Etu. Michael Bouchereau, qui œuvre depuis longtemps dans le domaine de la francisation en entreprise, s'ennuie du temps où le MIFI n'existait pas et qu'il devait plutôt collaborer avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Le processus était très bien rodé. Depuis que le MIFI a été mis en place, le processus d'approbation est extrêmement long. Il y a vraiment beaucoup de bureaucratie inutile. Il n'y a pas de structure au MIFI. Ils ne sont pas bien organisés. Je pense qu'ils sont dépassés par les événements, affirme-t-il. Ces prétendues lacunes poussent même certaines entreprises à prendre le taureau par les cornes. Il y a vraiment une très longue attente pour l'approbation, ce qui frustre les entreprises qui veulent franciser leurs employés. Au lieu d'attendre de 6 à 9 mois pour que le MIFI débloque un budget, elles paient de leur poche. Les compagnies réduisent donc leur budget et forment moins de personnes, ce qui a un impact pour elles. C'est à cause du MIFI, martèle-t-il. Vous écoutez, cours privé de français. Le téléphone n'arrête pas de sonner, un texte de Sébastien Auger de La Presse canadienne paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir. Le ministère prétend que le délai moyen est plutôt de 2 mois entre le moment où l'entreprise effectue sa demande et le début de la formation. M. Bouchereau soutient recevoir beaucoup d'appels de compagnies sans toutefois les identifier, mais il mentionne qu'elles sont bien connues du grand public. Les nouveaux arrivants eux-mêmes le contactent également dans l'espoir de recevoir des cours, mais on ne peut malheureusement pas les aider parce qu'on ne peut pas offrir des cours gratuitement. On a beaucoup d'appels de nouveaux arrivants qui veulent des cours subventionnés, mais qui ne savent pas où aller. Ils ne connaissent pas le processus, ils sont confus, ils sont perdus. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour les guider, même si ce n'est pas à nous de faire ça. En plus de la lourdeur du processus, M. Bouchereau dénonce que le MIFI redirige ses clients vers les centres de services scolaires. L'argent reste donc dans le gouvernement et la qualité n'est vraiment pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes, la flexibilité n'est pas la même. Ce n'est pas idéal. Le MIFI réplique par l'entremise de son porte-parole Gabriel Bélanger que les services de francisation en milieu de travail sont en amélioration continue depuis leur implantation, particulièrement depuis la mise en place de la gestion contractuelle le 1er juin 2024. Depuis cette date, Francisation Québec doit travailler en gestion contractuelle avec les entreprises d'un côté et les partenaires de formation de l'autre. Nous ne pouvons plus impartir cette responsabilité à l'entreprise qui choisissait elle-même et contractait directement un partenaire de formation. Le gouvernement Legault reconnaît un problème de lenteur dans la francisation en général. Il l'attribue en partie à la demande qui a explosé depuis l'instauration de Francisation Québec en juin 2023. Il existe un réel engouement pour la francisation au Québec. Bien que les capacités augmentent, la demande est encore plus forte et entraîne, conséquemment, une attente pour les services de Francisation Québec, indique M. Bélanger. Le ministère assure qu'il déploie des efforts pour apporter des améliorations à son offre de services pour qu'elle réponde toujours davantage aux besoins de la clientèle et annonce qu'un projet est en cours pour développer une offre de francisation en ligne de stade débutant permettant l'apprentissage autonome. Pour la première année d'existence de Francisation Québec, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, 76 921 personnes ont été desservies. On en compte déjà 65 790 entre le 1er juin et le 31 octobre 2024. On surpassera donc l'offre en cette deuxième année. Mais la demande augmente, elle aussi, de façon vertigineuse. On sait que la demande est vraiment énorme. Il y a des limites à ce que le système peut gérer comme demande, se défend l'attaché de presse du MIFI, William Demers. Le ministère impute la faute à la hausse du nombre de résidents non permanents, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas franciser tout le monde. Le gouvernement estime que le projet de loi 74 sur le plafonnement du nombre d'étudiants étrangers admis dans la province en vue de la rentrée 2025, adopté le 5 décembre, contribuera à réduire la demande. On s'attend à ce qu'il y ait une baisse dans le futur de la demande de francisation, ce qui pourrait ensuite se traduire par un moins gros engorgement dans le système. Éventuellement, une réduction du nombre de résidents non permanents va permettre d'avoir une baisse de la pression sur Francisation Québec, affirme M. Demers. Selon les données du MIFI, le nombre d'étudiants étrangers est passé de 50 000 à plus de 120 000 au cours des 10 dernières années, soit une augmentation de 140 %. En attendant les effets concrets bénéfiques de ces mesures publiques, certains immigrants prennent leur mal en patience, tandis que de nombreux autres se résignent à opter pour le privé, alors que c'est pourtant la mission de l'État, comme le stipule le site officiel du gouvernement. C'était « Cours privé de français, le téléphone n'arrête pas de sonner », un texte de Sébastien Auger de la Presse canadienne, paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les retours vers le futur de 2025, un texte de Stéphane Laporte, paru le 5 janvier 2025 dans la presse. Chaque année qui s'amène nous ramène les années qui sont à des dizaines d'elles. L'année 2025 n'y échappe pas. Plusieurs anniversaires seront soulignés au cours des prochains jours, à commencer par les 40 ans du film culte Back to the Future. Le temps d'une chronique, nous allons, comme Marty McFly, non seulement revisiter le passé, mais nous amuser, parfois, à le transformer. Le 8 janvier 2025, 2 jours après les rois, c'était le 90e anniversaire de la naissance du King Elvis Presley. Imaginez si l'idole était toujours vivante, si au lieu de se gaver de médicaments dans les années 1970, Elvis s'était mis aux médecines douces et au yoga chaud. S'il était devenu végétarien comme Paul McCartney et avait pu continuer d'enfiler le kit de cuir noir de son comeback de 1968. Sûrement qu'il y aurait eu, en direct d'Hawaï, un grand spectacle célébration durant lequel les plus brillantes stars de la pop, de Mick Jagger à Taylor Swift, serait venu chanter avec lui, Elvis terminant le concert en reprenant « My Way » avec quelques mouvements de karaté. Bien sûr, pour voir le tout, il faudrait être abonné à Netflix. Il y aura 50 ans, était inauguré, le 4 octobre 1975, en grande pompe, l'aéroport international de Mirabel qui, selon le premier ministre du Canada du temps, Pierre Elliott Trudeau, devait lancer Montréal et tout le pays vers l'avenir, l'aéroport de Dorval étant désuet. Aujourd'hui, Mirabel est un vestige du passé et l'aéroport de Dorval s'appelle Pierre Elliott Trudeau en hommage à celui qui le trouvait dépassé. C'est comme si on nommait une autoroute Valérie Plante. Si c'était à refaire, l'aéroport de Mirabel n'aurait pas été construit, les agriculteurs de Sainte-Scolastique n'auraient pas été expropriés pour rien, et Dorval s'appellerait l'aéroport René Lévesque, farouche opposant au projet de Mirabel. En juin 1975, tout le monde craignait de se baigner dans l'océan à cause du film « Jaws » qui venait de sortir. Il n'y a rien à changer à ce chef-d'œuvre de Steven Spielberg, hormis le fait d'avoir voulu en faire une pêche miraculeuse. Un Jaws, c'est parfait. Un Jaws 2, ça va. Mais Jaws 3D et Jaws The Revenge, c'était deux mâchoires sans dentier. Le 18 juin 1975, le coach du Canadien, Martin Saint-Louis, amenait sa vie dans la vie. On lui souhaite de fêter ses 50 ans dans le mix des séries. Il y aura 100 ans cette année qu'avaient lieu les premiers internationaux de tennis de France. Malheureusement, le champion incontesté de Roland-Garros, Raphaël Nadal, celui pour qui la terre battue est la terre gagnante, ne participera pas au tournoi de 2025. Le temps passe, la terre reste. Il y aura 250 ans cette année. Les indépendantistes américains ont tenté d'envahir la ville de Québec pour faire du Canada l'un des premiers États des États-Unis. Soulignerons-nous ça en devenant le 51e? Vous riez, faites attention, Donald Trump a tendance à faire ravaler les postillons de ceux qui rient de lui. Le 19 octobre 2025, cela fera 10 ans que Justin Trudeau est devenu le premier ministre du Canada à la tête d'un gouvernement majoritaire. J'ai bien peur qu'il ne reste plus grand libéraux au parti, avec un Y ou un I. Le mardi 7 janvier 2025 marque les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. En 2015, nous étions tous Charlie. Les survivants et leurs proches le sont toujours. C'est en se le rappelant au fil des ans, avec la même douleur, que l'on prouve que nos mots étaient plus qu'un slogan. Et pendant qu'on est au rayon des horreurs, cela fait 80 ans que l'armée rouge a libéré le camp de concentration d'Auschwitz, où plus d'un million de personnes sont mortes victimes de la haine et du racisme. À l'époque, le monde a dit « plus jamais », mais a continué de le faire, toujours. Sur une note plus heureuse, le 28 mai 2015, Dany Laferrière est devenu un immortel de l'Académie française. 10 ans plus tard, ce bon vivant est toujours immortel, mais l'immortel des immortels, c'est Jeannette Bertrand, qui aura 100 ans le 25 mars 2025. Cette femme prouve que l'on peut vieillir et devenir encore plus jeune, comme l'on peut s'ouvrir aux autres et devenir encore plus soi-même. Nous serons 8 millions à lui chanter « Ma chère Jeannette, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour avec un grand A ». Ce doux refrain qui aura 50 ans le 24 juin. Lors de la Saint-Jean de 1975, grâce au poète Gilles Vigneault, nous sommes devenus l'un des rares peuples d'Occident à souligner les anniversaires avec une chanson bien à lui, bien à nous. Un gros merci. Que vous ayez un jour ou 36 500 jours, c'est toujours notre tour de nous parler d'amour. Et si on avait la DeLorean de Michael J. Fox, c'est ce qu'on appliquerait dans le futur comme dans le passé. Heureusement, on n'a pas besoin de voitures transformées pour l'appliquer au présent. C'était « Les retours vers le futur de 2025 », un texte de Stéphane Laporte, paru le 5 janvier 2025 dans la presse.